C'est ce qu'il y a. On commence ici la deuxième partie du Sefer Shemot. La deuxième partie, elle est essentiellement consacrée au Mishkan. Qu'est-ce que c'est qu'un Mishkan? Mishkan, ça veut dire résidence, ça veut dire un lieu où on habite d'une certaine manière. Shochen, Shochen, c'est un voisin. Donc c'est une maison. Alors c'est une maison et de dire que c'est une maison, ça rappelle ce que Chazal ont dit que le Beth Amikdash, l'idée de Beth Amikdash, pour Avraham Avinu, le Beth Amikdash, c'était une montagne. C'est-à-dire, c'était quelque chose de terriblement impressionnant. Comme quand vous êtes devant une montagne, une haute montagne, vous êtes impressionné. Donc ça, c'était la situation. C'était comme ça que Avraham Avinu envisageait, si vous voulez, le Mishkan, enfin, un Beth Amikdash. Yitzhak Avinu, pour lui, le Beth Amikdash, c'était un sadeh, un champ, c'est-à-dire un lieu de travail, un lieu de prière, de korbanot, etc. Et pour Yaakov Avinu, c'était une maison. Et nous, comme nous sommes les Bnei Israël, les descendants de Yaakov Avinu. Alors nous, on a la notion de maison qu'on entend dans, on n'entend pas directement dans Mishkan, mais on l'entend bien dans Beth Amikdash, la notion de Baït. Dans la Torah, hein, on ne parle pas de Beth Amikdash en tant que tel. On parle de Mishkan et on parle aussi de Mikdash. Avec donc une connotation habitation, si vous voulez, dans Mishkan et quelque chose qui a à voir avec la Kedusha qu'on appelle Mikdash. Alors en français, on dira Mikdash, un sanctuaire. C'est-à-dire, dans Mikdash, la connotation, c'est Kadosh. Et Kadosh, ça veut dire séparé. Ça veut dire, c'est un lieu, le Mishkan, c'est un lieu qui n'est pas un lieu comme les autres. C'est ça, le Mikdash. C'est un lieu, mais il n'est pas comme les autres. Toute la notion de Kedusha, c'est toujours cette notion de séparation, de ne pas être comme les autres, de radicalement différent. Mais si c'est un lieu qui n'est pas comme les autres, c'est un lieu, voilà, c'est, on dit rien de la façon dont ce lieu est habité. Par contre, dans Mishkan, c'est un lieu de résidence, et Hachem dit, Veshachanti, je résiderai. Donc, c'est, vous allez me fabriquer un lieu de résidence, et je résiderai. Vous allez me construire aussi un Mikdash, un lieu hors des lieux, quoi. Une espèce de, je ne veux pas dire non-lieu, mais c'est un lieu, mais comme, c'est un lieu, parfaitement un lieu, mais, pas comme les autres. En quoi est-ce qu'il n'est pas comme les autres? C'est que il y a toutes sortes de règles de fonctionnement de ce lieu qui le singularise. C'est-à-dire, il n'y a aucun autre lieu qui a des conditions comme celui-là. Si ça doit ressembler à une maison, alors effectivement, cette idée d'une maison, c'est est-ce que le Mishkan est fait sur un modèle de maison ou est-ce que le Mishkan est lui-même un modèle? C'est-à-dire que quand le Mishkan va disparaître, ben, il va servir de modèle. Le modèle pour la maison. C'est-à-dire, la maison va devenir, quand il n'y a plus de Mishkan, ben, la maison devient un Mishkan. C'est pas complètement étranger à ce qui est dit dans la Torah, quand Hachem nous prescrit de construire de lui faire un Mikdash, un Mishkan, parce que c'est bien ce qu'il c'est ce qu'Hachem a dit au Pasuk Chet, premier chapitre de 25-8. Le Pasuk dit Vasuli Mikdash Veshachanti Betocham. Alors c'est intéressant. C'est-à-dire, vous allez me faire un Mikdash. Ben, un Mikdash. Dans le Mikdash, on n'entend pas que Hachem va résider. Si on avait dit Vasuli Mishkan, on aurait entendu que, bon, alors. Si c'est un lieu d'habitation, ben, quelqu'un doit y habiter. Mais ici, le chidouche, c'est que Hachem dit, c'est un mikdash, et moi, je vais prendre ça comme lieu de résidence. Mais, comme vous savez, on l'a déjà vu plusieurs fois, il y a un problème parce que il y a une terrible faute de grammaire dans la Torah. Parce que c'est marqué Vasuli Mikdash Veshachanti Betocham. Qui est le sujet de Veshachanti? Ben, c'est Kadosh Baruch Hu, mais où est-ce qu'il va résider? A priori, dans le Mikdash dont on a parlé. Bon, c'est marqué Betocham, mais pas Betocho. Normalement, ça devrait être marqué Veshachanti Betocho. Veshachanti Betocham. Ça veut dire, je vais résider au milieu d'eux. Alors, on pourrait lire, au milieu d'eux, c'est quoi? Ça veut dire que le Mikdash que vous allez fabriquer, vous allez le placer au centre du camp des Bnei Israël. Les Bnei Israël vont camper autour. Il n'y a pas de raison qu'on le mette près de, obligatoirement, d'une tribu ou de quelques tribus et loin des autres. Donc, pour que ce soit à égale distance, en quelque sorte, de toutes les tribus, ben, il faut le mettre au centre. Mais ça, c'est trivial. On n'a pas besoin d'un verset pour penser que le Mikdash, a priori, doit être au milieu. C'est pour ça que on va pas dire que Betocham veut dire au milieu d'eux, au sens, au milieu du peuple. Mais Betocham, ça veut dire à l'intérieur d'eux. C'est-à-dire dans le cœur de chacun. Alors maintenant, le problème, c'est que si Hachem dit que le but de l'exercice, c'est que il réside, ou Hachem réside dans le cœur de chacun, alors pourquoi construire un Mishkan? Des cœurs, il y en a, donc on n'a pas besoin de construire un Mishkan. Alors, est-ce qu'on peut dire de la construction d'un Mishkan quand la résidence essentielle, en quelque sorte, d'Hachem, c'est dans le cœur de chacun? Alors, à quoi peut bien servir le Mishkan? Les guillemets d'usage, a priori, on va dire que ce Mishkan-là, il sert de rappel, il sert de pense-bête, en quelque sorte. Si vous avez oublié, alors, concrètement, vous allez voir quelque chose qui est censé vous rappeler que vous devez travailler pour qu'il y ait une place dans le cœur de chacun, pour qu'Hachem puisse y résider. Mais si jamais on oublie, alors on a le rappel du Mishkan. Mais d'une certaine manière, le Mishkan, d'après ça, il est secondaire par rapport à la résidence dans le cœur de chacun. Puisque ce qu'Hachem veut, c'est résider dans le cœur de chacun. Il veut pas spécialement résider dans dans ce Mikdash qu'on va lui faire, dans ce sanctuaire. Il y réside d'après ça, il y réside pour nous rappeler de lui faire de la place dans le cœur, dans nos cœurs. Alors, si c'est une maison, alors, on pourrait se demander, on est dans le Sefer Shemot maintenant. Est-ce que dans le Sefer d'avant, c'est-à-dire dans Bereshit, on a un modèle de maison? Si on veut que on fasse une maison pour Hachem, c'est quoi le modèle de maison? Qu'est-ce qu'on va lui faire? Coupole, qu'est-ce qu'on va faire? Alors, le modèle de maison qu'on connaît, il n'y a qu'un seul modèle de maison dans Sefer Bereshit. Quoi? Le? Pas compris.
Une tente.
Une tente, oui. Une tente, mais c'est une tente bien particulière. Ils avaient tous des tentes à ce moment-là. C'est quelle tente? Ça, c'est... C'est pas très connu la tente d'Abraham Avinu parce que de la tente d'Abraham Avinu, on dit seulement qu'il était dehors sur le seuil de la porte quand il regardait, il attendait les. Mais par contre, vous n'êtes pas loin, c'est la tente de
Shalom.
Sarah. Le modèle, c'est la tente de Sarah. De toute manière, c'est logique parce que ce sont les femmes qui sont les maîtresses des maisons. Donc c'est la tente de Sarah. Or, cette tente de Sarah, on en connaît, Razal nous ont dit qu'il y avait trois caractéristiques de la tente de Sarah. Premièrement, il y avait une bracha dans la pâte, c'est-à-dire que ils faisaient des économies. On faisait 1 kilo de pâte et ça donnait 10 kilos de pain. Fait des économies quand même. Donc, c'est la bracha. Bracha, c'est la multiplication. C'était une première chose. La deuxième chose, c'est qu'il y avait en permanence Ner Dalouk. Il y avait un Ner Tamid, en fait. Il y avait une lumière permanente. Nous, on n'a pas, on sait pas ce que c'est qu'une lumière. Hein, la lumière partout. Et il y avait une lumière permanente dans la tente de Sarah. Et troisièmement, il y avait un petit nuage accroché à la tente de Sarah qui indiquait qu'il y avait présence divine dans cette tente. Eh bien, ces trois choses-là, attachées à cette tente, quand Sarah est morte, ben, ça a disparu. Mais quand Yitzhak a ramené Rivka, la jeune Rivka, la très jeune Rivka éventuellement, elle est entrée dans la tente de Sarah et tout est revenu. C'est-à-dire Rivka, à son jeune âge, elle était d'après ça, en tout cas pour la construction de la maison, elle était à la même hauteur que sa belle-mère. C'était une femme assez âgée. Non, ça s'est dit sur la Sarah, y compris des dernières années. Marge Rivka, hein, dans son jeune âge, ça se refait immédiatement. Et puisque c'est ça le modèle, alors le modèle va servir de modèle pour le Mishkan. Et il y aura dans le Mishkan aussi ces trois caractéristiques. La bracha dans la pâte, c'est une bracha d'un autre ordre. C'est pas une bracha quantitative, si vous voulez. Mais au Beth Amikdash, il y avait dans le mobilier du Beth Amikdash, et en parlant du Mishkan d'abord, dans le mobilier du Mishkan, il y avait un truc qui s'appelle Shulchan, s'appelle table. Sur cette table-là, on verra à part de cette semaine d'ailleurs, on verra qu'on y mettait chaque Shabbat, on mettait 12 pains. Et ces pains restaient là sur une surface froide, si vous voulez, pendant toute la semaine. Et le Shabbat d'après, il y avait un groupe de Kohanim. Et le Shabbat, c'était le jour où les Mishmarot, c'est-à-dire où les groupes de Kohanim qui étaient, vous vous souvenez, il y avait 24 groupes de Kohanim. L'ensemble des Kohanim était divisé en 24. Et chacun travaillait une semaine. Et après encore une autre semaine, donc en tout 2 semaines. Et il y avait, pour arriver à 52 semaines, il y avait 4 Mishmarot qui, eux, faisaient un service 3 fois par an. Bon, les autres, ils travaillaient 2 fois dans l'année, c'est-à-dire 15 jours par an. Et il y en avait 4 qui travaillaient un peu plus, c'est-à-dire un jour de plus, une semaine de plus par an, pardon. Et on avait un roulement, effectivement, sur toutes les années de Shemitah, puis ensuite sur les années de Yovel, etc. Et le changement de garde, le changement de mishmar, il avait lieu au Shabbat. Et donc, ceux qui entraient en service, et puis il y avait ceux qui terminaient leur service, et les pains en question étaient mangés par les Kohanim, et ils étaient frais comme s'ils sortaient du four. Ça, la bracha sur la pâte qu'il y a dans le Beth Amikdash, dans le Mishkan. Ensuite, il y a le Ner Tamid. Ner Tamid, c'est quoi? C'est que tous les jours, dans le Mishkan, tous les jours, Aaron allumait la menorah. Ça s'appelle Ner Tamid. Tous les jours, 2 fois par jour, Shacharit et Ben Arbaim, Aaron, le Kohen Gadol, allumait la menorah. C'est la lumière permanente. Et puis, au-dessus du Mishkan, il y avait effectivement des nuées de gloire qui correspondent aux fameux petits nuages sur la tête, sur la tempe de Sarah. Donc, le Mishkan est sur le modèle d'une maison, enfin, d'un lieu d'habitation fabriqué par les hommes. Dont les caractéristiques sont la résultante du travail de Sarah dans la maison. Sarah et d'Abraham, enfin bon, c'est la tante de Sarah. Et quand le Mishkan va disparaître, y compris le Beth Amikdash, va disparaître, eh bien, c'est dans les maisons, c'est-à-dire en vérité le Mizbéar, l'autel qu'il y a dans le Mishkan et dans le Beth Amikdash, c'est la table des hommes. À la table, on doit considérer que c'est pas simplement qu'on se nourrit pour subsister, mais il y a façon de se nourrir, en particulier en faisant des brachot sur la nourriture. Nerf Tamid. Bon, alors, c'est dans les synagogues qu'on a en permanence un Nerf Tamid. Au-dessus de. Il y a une lumière qui brille en permanence. Et maintenant, le nuage, alors, bon. Les nuées, ça veut dire. Il y a la présence divine. C'est marqué que. Quand on étudie la Torah, il y a la présence divine. Donc dans une maison, si on étudie la Torah, il y a la présence divine. Donc si vous voulez, de cette manière-là, on a recréé dans la maison le modèle du Mishkan qui lui-même avait été pris comme modèle, sur le modèle de la tente de Sarah. Alors, pour revenir sur ce verset de 8, là, Vasuli Migdash Betoham, a priori, c'est un commandement. C'est un commandement, alors c'est une mitzvah Midoraita. Mais si c'est une mitzvah Midoraita, comment se fait-il que nous ne la pratiquions pas? Comment se fait-il que nous ne soyons pas en train de construire le Beth Amikdash? Mitzvah d'Oraita, c'est pas se défiler. On ne parle pas des korbanot. C'est pas la construction du Mishkan. C'est pas, ça a rien à voir, pas rien à voir, mais c'est quelque chose qui est la résidence d'Hachem. Les korbanot, c'est autre chose. Après, dans cette résidence, on va apporter les korbanot, mais le Mishkan, ça a déjà une existence en soi pour soi. Pourquoi on construit pas? Alors, il y a plusieurs réponses. Une réponse, c'est de dire que politiquement, c'est pas possible. Si on le faisait, ça déclencherait la guerre. Et la guerre, ça entraîne pikuach nefesh. Ça entraîne des risques. Et on n'a pas le droit de prendre des risques. Donc ça veut dire que s'il y a la guerre, on ne peut pas construire, donc il faut le shalom. C'est-à-dire, et en fait, c'est une condition nécessaire. Il y a le shalom pour qu'on puisse construire le Mishkan, le Beth Amikdash. Et on voit par exemple qu'au temps de David Ameller, il y avait des guerres, il n'a pas pu construire. C'est Shlomo qui a construit parce que, à l'époque de Shlomo, grâce au travail que David avait fait en amont, à cette époque-là, il n'y a pas besoin de faire des guerres. Donc il a pu construire.
Pourquoi le fait de construire le Mishkan, ça déclenche la guerre?
Bon, ça va déclencher la guerre. Il y a des gens qui sont. On ne va pas le construire n'importe où, le Beth Amikdash. Donc, ils vont faire la guerre. C'est une des réponses. Ça veut dire que, simplement, il y a des choses qu'on ne peut pas faire parce qu'on n'a pas les moyens, mais c'est un rapport de force. On n'a pas de rapport de force pour pouvoir le construire. Bon. Rapport de force, ça impliquerait qu'il y a des gens qui vont mourir pour ça et on ne doit pas mourir pour faire des mitzvot. Par contre, travailler pour qu'il y ait le shalom, ça peut être considéré comme un travail préalable pour rendre la construction du Bétamigdash possible. Ça, c'est une réponse. Il y a une réponse du Rambam, Maïmonide. Lui, le Rambam, il dit que la construction du Bétamigdash, c'est le travail du Mashiach. Dans les Prakim sur le Mashiach, il dit, s'il construit le Bétamigdash, alors il sera Mashiach. C'est son travail. Donc c'est pas le nôtre. Mais ça aussi, ça donne une question. Depuis quand les mitzvot que nous avons à faire, c'est Hachem qui les fait? Si nous avons une mitzvah, comment peut le Rambam peut dire que c'est le Mashiach qui vit? C'est-à-dire qu'en fait, c'est le Mashiach, ça veut dire, ben, c'est simplement, disons que le Mashiach, pourquoi c'est remis au temps du Mashiach? Oh bon, c'est pas évident. Après, il y a une troisième opinion qui dit clairement, hein, que le troisième Beth Amikdash sera construit par Hachem. Et là, du coup, on a complètement la question de comment ça se fait que c'est Hachem qui fait les mitzvot qui sont les nôtres. Il y a dans l'Yerushalmi, il y a Yerushalmi qui dit le contraire de ce que dit le Rambam. Le Rambam, il dit Mashiach d'abord et le Betamigdash après. Et le Yerushalmi dit d'abord le Betamigdash et après Mashiach. Donc a priori, les gens qui, même aujourd'hui, il y a des gens qui disent qu'il faut construire le. Ils ont Yerushalmi pour eux. La vérité, c'est que je suis pas très sûr le Rambam dise que c'est le travail du Mashiach. Si je me rappelle bien, la vérité, je n'ai pas revérifié. Si je me rappelle bien, le Rambam, il dit que s'il construit le Beth Amikdash, alors il sera Mashiach. Le Rambam, il définit une notion de un candidat à la Meshichiyout. Candidat. Donc il a à faire des guerres et construire le Beth Amikdash et Kibbutz Galuyot, toutes sortes de choses. Et s'il fait tout ça, alors il est Mashiach. C'est pas que c'est le travail du Mashiach. C'est le travail de quelqu'un qui veut être Mashiach, enfin, s'il le fait en amont. Donc c'est peut-être pas si contradictoire finalement. Mais bon, a priori, lui, il a l'air de dire que le Beth Amikdash, ça se construit par le Mashiach et pas par nous. Bon, ça, c'est quelques remarques là, sur le Beth Amikdash et sur le Mishkan. Maintenant, il y a une célèbre marloquette entre Ramban et Rashi. Cette marloquette, on l'a déjà vue. Sujet de ce qui se passe juste avant Matan Torah, ce dont on a parlé récemment. Il y a la même marloquette ici. Chez nous, quand vous regardez le texte tel qu'il est présenté dans la Torah, il y a Matan Torah dans Parshat Yitro. Dans Parshat Mishpatim, Moshe Rabbeinu monte pour recevoir la Torah. Okay. Et là, il est en haut, là. Il est en train de recevoir la Torah. Et dans la Torah qu'il reçoit, il reçoit Truma et Tetzaveh, c'est-à-dire la paracha Truma, c'est-à-dire les instructions de construction du Mishkan, et dans Tetzaveh, les instructions pour la fabrication des vêtements du Kohen Gadol et du Kohanim. Et puis après, il est toujours sur la montagne, il a fini de learnen, d'étudier, et il prend les luchot d'Hachem, Hachem lui donne les luchot, et Hachem lui dit, descends. Shifet Amcha, le Vaudor. C'est dans la paracha qui dit ça, la paracha du Vaudor. Et après, il y a deux parshiot, Vayakhel Pekoudé, qui sont les parshiot de la construction effective du Mishkan, selon les directives qui ont été données à Moshe Rabbeinu quand il était en train de monter sur la montagne. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, a priori, les directives pour la construction d'un Mishkan, elles n'ont rien à voir, elles ont été données avant la faute du veau d'or. Donc quoi? C'est-à-dire que de toute manière, on aurait construit un Mishkan. Quand? J'en sais rien. Peut-être seulement à la fin des temps. Peut-être que la construction du veau d'or, elle a précipité la construction. Peut-être ça a précipité la construction du Mishkan. Mais n'est pas la cause. Le veau d'or n'est pas la cause du Mishkan. Puisque les directives concernant le Mishkan et les Bgadim ont été données à Moshe Rabbeinu avant l'histoire du veau d'or. Ça, c'est la Shita du Ramban, qui lui dit il faut lire les choses dans l'ordre où elles sont présentées dans la Torah. Ce n'est pas que le Ramban pense qu'on n'applique jamais le principe de En Mugdam ou Meuharba Torah. Il n'y a pas d'ordre chronologique dans la Torah. Il en est d'accord. Mais le Ramban pense que c'est un principe qu'on applique seulement quand on ne peut pas faire autrement. Le Ramban dit, on peut faire autrement. Voilà, je lis. Rashi n'est pas d'accord. Rashi dit que le Mishkan, il est là seulement à la suite du veau d'or. Par conséquent, ces parshiot-là, moi, tu le savais, il faut les lire après le veau d'or, c'est-à-dire après qu'il dit ça. C'est-à-dire, on aura dans la filée, dans la suite, les instructions et la construction du Mishkan. Alors, sur la façon dont il faut comprendre Rashi, le problème c'est, Ramban il a raison a priori. Pourquoi tu veux pas? Et quelle est la raison pour laquelle Rashi fait ce bouleversement de chambouler l'ordre ici. Il y a plusieurs réponses. Une réponse, c'est le Sforno qui la donne. En vérité, le Sforno dit, en fait, normalement, on devrait pouvoir servir Hachem, c'est-à-dire prier ou apporter des korbanot, n'importe où. Hachem est accessible Il est partout. Donc, on devrait pouvoir prier. Alors, c'est ce que nous faisons, hein. On prie n'importe où. Mais on devrait pouvoir faire des korbanot aussi n'importe où. Donc, avec le Mishkan, puis avec les Bat Hamigdash, on va avoir des restrictions sur tout ça. On pourra pas le faire n'importe où. La question, c'est, puisque normalement, on devrait pouvoir le faire n'importe où, on ne peut pas. Alors, d'où est-ce que ça vient? Il est arrivé quelque chose. Il nous a disqualifiés. Alors, c'est-à-dire quelque chose qui a mis une distance avec Hachem. C'est-à-dire qu'on ne peut pas servir Hachem n'importe où. Le Hegel, la faute du veau d'or, elle a mis cette distance avec Hachem. Et puisque nous sommes éloignés d'Hachem, eh bien, il faudra réparer ça. Et le Mishkan, c'est ça qui va combler la distance, qui va annuler la distance. Puisqu'Hachem va, grâce à ça, il va résider au plus près, dans le cœur de chacun. Donc on va réduire la distance. Donc ça veut dire que le Mishkan, d'une certaine manière, c'est un onesh, c'est une sanction. Je dis que c'est une sanction parce que toutes les sanctions de la Torah sont toujours des sanctions qui viennent réparer. Il n'y a pas de sanction dans la Torah qui est simplement une punition. Ça marche pas. L'exemple classique, c'est si quelqu'un tue, A va tuer B, volontairement, en pleine connaissance de cause, devant deux témoins cachers, etc. Alors, il encourt la peine de mort. Si, par contre, il a tué par inadvertance, alors lui, il encourt une peine, néanmoins, mais une peine d'exil, de galoute, c'est-à-dire il est envoyé dans les villes refuges. C'est une forme d'exil. Il n'est pas chez lui. Le problème, c'est que il y a une situation qui est probablement la situation peut-être la plus fréquente, si on peut parler comme ça, qui est que si A a tué B volontairement, mais il n'y a pas de témoin, donc le tribunal pourra rien faire. On peut même imaginer qu'on a des témoins dignes de foi. Disons que A a tué B devant deux témoins. Et les deux témoins, c'est Moshe Rabbeinu et Aaron. Comme vous savez, Moshe et Aaron, ensemble, ils ne peuvent pas être témoins. Mais on n'a aucun doute s'ils nous disent que A a tué B, que A a vraiment tué B. Et peut-être ils l'ont même averti, mais ça vaut rien l'avertissement parce que ils sont deux frères et deux frères ne peuvent pas être ensemble témoins. Donc, on est sûr que le bonhomme est un assassin. Il est un assassin volontaire, etc., en pleine connaissance de cause. Mais on ne peut pas lui donner la peine de mort. Alors, la Gemara dit, mais pourquoi on ne lui donnerait pas au moins l'exil? La Gemara dit, mais c'est pas possible. Parce que la peine d'exil, elle est beaucoup trop faible pour réparer ce qu'il a fait en tuant par volontairement, etc. Donc, même s'il va en galoute, ça va pas du tout diminuer sa responsabilité. Il n'aura rien payé. S'il ne paye pas, si la peine ne fait pas son job, le travail, on ne peut pas la donner. Pourquoi? Parce que toutes les peines sont toujours des peines qui viennent compenser un éloignement, en gros, avec Hachem. Toujours comme ça. Si elles ne le font pas, elles ne sont pas données. Donc le Mishkan comme Onesh, ça c'est le Sforno. Néanmoins, il y a une question. C'est que si le Mishkan n'est là que pour compenser une distance, pour combler une distance, comment se fait-il qu'il y ait une mitzvah de construire, qu'on construise un Mishkan, un Beit HaMikdash, à la fin de l'histoire? À la fin de l'histoire, il n'y aura plus de distance, en définition. Pourquoi on construirait un Mishkan? Si le Mishkan, il vient réparer les fautes, on a déjà réparé. Donc, il n'y a pas lieu de construire un Mishkan. Il y a une deuxième façon d'entendre les choses, d'entendre Rashi, un peu à la façon du Kuzari. Vous savez ce que c'est le Kuzari? Le Kuzari, c'est un ouvrage écrit par Rabbi Yehuda Alevi. Yehuda Alevi, c'est quelqu'un qui a vécu avant le Rambam. Il a écrit ce livre qui s'appelle Kuzari. Peut-être vous avez entendu parler, Arthur Koestler, il a écrit un bouquin qui s'appelle La 13e tribu. Il raconte cette histoire, il raconte, on ne sait pas si c'est vrai ou quelle part il y a là-dedans. Il y a une histoire qui dit que dans le royaume des Khazars, c'est un royaume du côté de la mer Caspienne, ou quelque chose comme ça, il y avait un royaume là-bas, et le roi, il s'est interrogé sur quelle était la meilleure religion, philosophie, etc. Et il a convoqué des prêtres, des cathos, des musulmans et des juifs et un philosophe. Et donc ils ont discuté devant lui, quoi. Et le Kuzari, c'est le récit de tous les arguments. Donc, avec la critique, évidemment, Rabbi Yehuda Lévi, il était pour le judaïsme. Hein, Rabbi Yehuda Lévi, il est très très connu. Bon, c'était en plus d'être un grand penseur, mais il a aussi écrit énormément de poèmes. Dans la liturgie sfarade, Rosh Hashanah et Kippour, il y a énormément de piyoutim qui sont magnifiques. Par exemple, même les Ashkenazim, ce qu'on appelle dans les keynotes, les sionides, là, ceux qui parlent de Tzion, c'est Rabbi Yehuda Halevi qui a écrit ça. Je ne pas toutes, mais bon, pas toutes. Alors, Rabbi Yehuda Halevi, il fait. Il peut remarquer, c'est une remarque, mais que l'histoire du Mishkan, le Mishkan, c'est un truc très, très paradoxal. La Torah, elle est évidemment contre l'idolâtrie. La Torah, elle est contre les images. Elle est contre les représentations. Or, c'est vrai que c'est écrit dans la parasha de cette semaine, mais je pense que vous le savez des autres années. Dans le Kodesh HaKodashim, il n'y a pas grand-chose. Mais il y a une boîte qui s'appelle un Aaron, dans lequel il y a les Louchot. Les Louchot, le Shivrei Louchot, etc. C'est Torah, enfin bref. En tout cas, il y a les Louchot. Et puis cette boîte-là, elle a un couvercle. Sur le couvercle, dans la masse d'or du couvercle, il y a deux Krouvim, deux chérubins. Kodesh-Hakodashim, on a deux représentations de deux anges. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est un peu paradoxal. Ah oui, il faut expliquer. Faut expliquer que les Bnei Israël, ils sont pas capables de se connecter avec Hachem sans support. C'est trop dur. Il n'y a pas de support, c'est trop difficile. Alors, Akadosh Baruch Hu va leur donner un support. Mais un support cachère. C'est-à-dire, c'est le Mishkan, le Beth Amikdash, où effectivement, Hachem va prescrire exactement ce qu'on peut faire. Et là, on n'aura pas de latitude de faire, moi je pense que ce serait plus beau de faire plus grand, plus rose, plus, tu peux rien faire. Rien du tout. Si tu bouges un tout petit peu, tu es dans l'idolâtrie. Donc ça veut dire que le Mishkan, il est pour nous. Il est parce que c'est une espèce de. Comment il faut dire ça? C'est une aide. Nous sommes un peu handicapés, on a de quoi. Régler ce problème de l'handicap. On a une canne, on a un point d'appui, un support. Le problème, c'est la prise de risque. Bah, c'est bien de donner au Bnei Israël un support, c'est cachère et tout, mais il y a quand même le risque de l'idolâtrie. Le prototype de l'idole du risque, c'est en vérité le Hegel. Parce que comme vous savez bien, le Hegel, initialement, c'était pas du tout une idole. Qu'est-ce qui s'est passé? Quand Moshe Rabbeinu est monté pour 40 jours pour apprendre la Torah, on avait reçu la Aseret HaDibrot, mais Aseret HaDibrot, c'est 613e de mitzvot, quoi. Donc, c'est pas beaucoup. Il y avait encore beaucoup à faire. Donc, mon cher ami, il est parti pour 40 jours. Il y a toujours un problème quand on dit je pars pour 40 jours. Si vous partez à 11 heures du matin, est-ce que le jour du départ, il compte dans les 40 jours? Ou bien il compte pas? Parce que quand on dit 40 jours, c'est 40 jours complets. Bien, les Bnei Israël, ils se sont trompés. Moshe Rabbeinu avait dit 40 jours, ça voulait dire 40 jours complets. Et eux, ils ont compté à partir du premier jour, qui n'était pas un jour entier. Et par conséquent, quand ils sont arrivés à 40, Moshe n'était pas là. Quand Moshe n'est pas là, on ne peut pas dire que Moshe a du retard. Ça n'a pas de sens. Il est allé étudier chez Hachem et il peut pas revenir en retard. Moshe a disparu, donc, ça veut dire. Donc, qu'est-ce qu'ils disent? Aïch Moshe, l'homme Moshe, on ne sait pas ce qui est advenu de lui. Et donc, il se tourne vers Aaron. Et les Bnei Israël, ils ont besoin de quelqu'un qui les guide. Ils ont besoin de cette figure un peu paternelle, ou c'est quoi, qui est Moshe Rabbeinu. À la fois paternelle et maternelle aussi. Ils ont besoin de ça. Et ils l'ont pas. Alors, ils se tournent vers Aaron et lui disent, fais-nous quelque chose, là. Aaron, a priori, il voulait pas. Il a compris que c'était dangereux. Mais il n'a pas eu le choix. Alors il leur a dit, OK, récoltez l'or. Il s'est dit, ça va prendre un certain temps, d'ici là, Moïse sera là. Visiblement, avant, Aaron ne savait pas non plus quelle était l'erreur. Bon, ça se fait qu'il n'était pas là. Alors, ou bien il ne savait pas, ou bien il a pensé que il ne pourrait pas leur expliquer le retard en disant c'est vous avez mal calculé, Moshe, il voulait dire des jours entiers. Pas... En tout cas, il a décidé qu'il devait le faire. Il a pensé que ça prendrait du temps, mais ça n'a pas pris de temps parce que les hommes ont apporté de l'or immédiatement et les femmes ne voulaient pas, elles n'ont pas donné leurs bijoux. Mais les hommes les ont arrachés. Les femmes, elles n'ont pas fait le veau d'or. C'est les hommes seulement. Et donc, les bijoux, ils étaient tout l'or et l'argent, et ça, tout ça, c'était là tout de suite. Donc, il a fondu cet or. Et de cet or en fusion est sorti ce taureau-là, ce veau d'or. Pourquoi il sortit un taureau? Pourquoi il n'est pas sorti, je sais pas, une biche ou je sais pas, ou la tour Eiffel, je sais pas. Pourquoi c'est ça qui est sorti? Vous savez pas, non? Vous savez? Non, c'est? Je dis rapidement ce qui s'est passé. Paro savait que les Bnei Israël ne sortiraient pas d'Égypte sans Yosef, sans prendre le cercueil de Yosef pour l'enterrer en Eretz Israël. Alors Paro a fait sceller le cercueil de Yosef au fond du Nil. D'une part, on ne savait plus très bien où c'était, puis c'était scellé au fond du Nil. Alors quand tout le monde s'occupait à ramasser l'or et l'argent dans les échanges avec les goyim aussi, etc. Moshe Rabbeinu, il est allé chercher le cercueil de Yosef. Et la fameuse Serach Bat Asher, la petite fille de Yaakov Avinu, celle qui avait déjà annoncé à Yaakov que Yosef était vivant, etc. Elle a eu Arif Koutiamim, elle vit depuis très longtemps. Et elle sait, et elle a dit à Moshe où était le cercueil. Mais il est toujours au fond du Nil. Alors Moshe Rabbeinu, il a pris une plaquette en or, et il a gravé dessus, Allez, Chor, monte, taureau. Chor, c'est un taureau. Pourquoi il a écrit ça? Parce que l'emblème de Yosef, c'est le taureau. L'emblème de Yehuda, c'est le lion, de Benjamin, c'est le loup, de Naphtali, c'est la gazelle. Yosef, c'est le taureau. Et donc, il l'appelle taureau. Et dans les brachot, on parle toujours du chaud. Donc, c'est une façon de dire, monte, cercueil de Yosef. Et il est monté. Et Moshe Rabbeinu, il n'a pas la plaquette en question, il ne l'a pas récupérée. Il y a quelqu'un qui l'a récupérée. Et quand Aaron a mobilisé tout l'or, il a balancé la plaquette dans le creuset, l'or en fusion. Et donc elle a fait son effet. Le taureau est monté. Bon, alors ils se sont retrouvés avec ce taureau qui avait pour fonction de remplacer Moshe. Comment on fait pour qu'il joue ce rôle-là? Ils n'en savaient rien. Ils savaient pas. Qu'est-ce qu'il faut lui dire? Qu'est-ce qu'il faut? Comment on fait pour que ce truc-là, on l'appelle un truc parce que je peux pas dire une idole, c'était pas une idole à ce moment-là, pour que ce truc-là joue le rôle qu'on veut lui faire jouer? Ils savaient bien qu'ils allaient faire jouer le rôle à quelque chose qui, c'est tout. Ils ont besoin de pouvoir traiter ça comme symboliquement ce qui nous a fait sortir d'Égypte. Alors, je fais une parenthèse pour dire quelque chose que j'ai déjà dit 20 fois, mais bon, j'aime bien répéter. Le seul personnage qui pouvait jouer ce rôle-là, ce rôle de remplaçant de Moshe, c'était Yosef. Parce que Yosef, il est le pendant de Moshe. Moshe, c'est celui qui a fait sortir les Bnei Israël d'Égypte. Et Yosef, c'est celui qui les a fait entrer en Égypte. Alors, c'est Yosef qui a dit à son père, descends en Égypte au moment de la famine, avec toute la famille, je vais vous nourrir tous, etc. Et Yaakov, qui avait des difficultés, mais il a fini par descendre, effectivement, en Égypte. Alors, en quoi c'est bien? C'est que l'idée de base, c'est que la descente en Égypte n'est pas un accident qu'il a fallu réparer avec la sortie d'Égypte. La sortie d'Égypte était fondamentale parce que c'était ça qui a été annoncé à Abraham Avinu dans le Brit Ben Aptarim. D'accord? C'est que tes enfants, ils vont être esclaves dans un pays qui n'est pas le leur, ils vont souffrir pendant 400 ans, mais ensuite ils vont sortir. Et quand ils vont sortir avec un grand butin. Et moi, je jugerai aussi le peuple qui les a asservis. Et donc quoi? Ça veut dire, dès le départ, on savait que ce qui était important, c'est la sortie d'Égypte. Ce n'était pas l'Égypte à ce moment-là obligatoirement. C'est devenu l'Égypte à cause de la dispute entre Yehuda, enfin entre les Shvatim et Yosef. Ils ont vendu Yosef en Égypte, alors on a atterri en Égypte. Mais il est vendu ailleurs, on atterrit ailleurs. Bon, alors, Hachem a sûrement fait en sorte que ce soit l'Égypte, etc. Mais bon. Par conséquent, Yosef, il est celui qui a commencé la sortie d'Égypte. Pour pouvoir en sortir, il fallait y entrer. Donc, celui qui a fait entrer, il a comme c'est le début de la sortie d'Égypte. Et donc, il est vraiment le seul qu'on puisse qualifier de. Il nous a fait sortir d'Égypte. Donc, il aurait fallu abstraire complètement ce taureau et le considérer uniquement comme c'est l'emblème de Yosef et pas du tout lui donner un culte, simplement c'est un emblème. Un drapeau. Mais les Bnei Israël ne savaient pas comment faire. Et puis il y avait avec eux le Révrav. Et on dit que le Révrav a dit, nous on sait. Nous on sait comment on peut honorer ce taureau. Mais ce qu'eux ils savaient, c'est comment on le fait quand on veut en faire une idole. Et pas quand on ne veut pas en faire une idole. Mais ils ont donné des conseils. C'est des conseils d'idolâtrie. Ça n'a pas manqué. C'est devenu une idole. C'est ça qu'il faut comprendre. Pourquoi? Parce que, d'une certaine manière, probablement, c'est impossible. Les hommes ne sont pas capables de trouver les moyens, d'inventer des moyens pour investir un truc de quelque chose sans que la chose devienne une idole. On ne sait pas faire. C'est refait l'histoire. À la mort de Shlomo HaMelech, son héritier c'était Rehovam, et les Chachamim sont allés dire à Rehovam, écoute, ton père, il nous a accablés d'impôts. Ok, mais il a construit le Beth Amikdash et tout, mais toi, il va falloir diminuer l'impôt, on n'en peut plus. C'est pas très intelligent. Il leur a dit, non seulement, je ne vais pas les diminuer, mais je vais encore les augmenter. Et du coup, Hachem lui a enlevé 10, enfin 9,5 des 12 tribus. Et il s'est retrouvé avec deux tribus ennemies, Yehuda, Binyamin et la moitié de Ménaché. Et les neuf tribus ennemies ont été données à quelqu'un qui n'est pas de la tribu de Yehuda, donc qui n'est pas de la tribu royale, mais qui est au contraire la tribu d'Éphraïm, c'est-à-dire de Yosef, et qui s'appelait Rehovam, Yerovam, pardon. Jéroboam pour les intimes. Et vous imaginez ce bonhomme-là, ce qu'il devait être comme tzaddik pour qu'on lui donne à lui neuf tribus et demie. Seulement, il avait un problème. Il y a une mitzvah pour les Bnei Israël d'aller trois fois par an à Yerushalayim, au Beth Amikdash. Et le Beth Amikdash, il est sur le territoire de l'autre royaume, territoire de Yehuda et Binyamin. Et donc, ça veut dire que les citoyens, les sujets du roi Yerovam, trois fois par an, ils vont aller à Yerushalayim, au Beth Amikdash. Mais il est impensable d'aller au Beth Amikdash sans aller au palais qui est à côté, présenter ses respects à Rehovam. Yerovam, il n'a pas supporté. Alors il a décidé qu'il allait, donc c'est ce qu'il a fait d'ailleurs, il a bouché les routes qui menaient à Yerushalayim depuis son royaume. Et puis il a décidé qu'il allait faire des contre-fêtes de pèlerinage. Et on va pèleriner à deux endroits, au nord et au sud. Et au nord et au sud, on va construire des taureaux. On va aller ces taureaux, on va les honorer. Mais aller honorer les taureaux, l'emblème de Yosef, quelqu'un de la tribu d'Éphraïm, c'est rien d'autre que d'aller donner du kavod à la famille, à l'ancêtre de la famille, c'est tout. C'était pas une idole. Mais Hachem lui a dit, ça peut pas marcher, ça va donner de l'idolâtrie. Faut pas le faire. Alors bon, il voulait rien savoir. Alors Hachem lui a dit, écoute, si tu prends sur toi tu portes que tes sujets aillent trois fois par an saluer le roi ennemi, quoi, quelque part. Alors, tu sais, toi, c'est Hachem qui parle, alors il dit, moi, David et toi, on se promènera ensemble dans le Gan Eden. Alors il a demandé, ok, mais qui va marcher devant, David ou moi? Alors Hachem lui a dit, si tu demandes, c'est David. Il a dit, enfin, je marche pas. Et il a fait les veaux, il est devenu le plus grand roi idolâtre. Lui, le super tzaddik auquel on a donné neuf tribus et demie, devenu un roi idolâtre. Et sinon. Et en plus, toute son histoire de savoir qui va marcher devant, l'idée étant que je veux bien m'écraser dans la Mazé, mais dans la Mabah, je voudrais que ce soit moi devant, quoi. Le problème, c'est quand Hachem dit on va aller à trois, avec Hachem, c'est toujours une ronde. C'est toujours Hachem au milieu et les autres sont autour et ils dansent autour d'une ronde. Et donc, de toute manière, les deux auraient été à même distance. Et puis, il n'y a pas, quand on est sur un cercle, il n'y a pas devant et derrière. C'est un atome d'hydrogène. Donc, c'est tout. Pour vous dire que c'est pas possible. C'est un risque trop grand. Et de facto, c'est vrai. Le premier Beth-Amigdash, il a été détruit à cause de l'idolâtrie. Donc, pour Rabbi Yehuda Halevi, le Beth-Amigdash ou le Mishkan, c'est une concession. C'est un peu une espèce de concession, un peu comme le Rambam dit que les korbanot, c'est une concession à l'esprit du temps. Il y a une troisième façon qui est de dire que c'est celle du Midrash. Le Midrash, il dit que le Mishkan, c'est le signe du pardon d'Hachem. C'est-à-dire, le pardon d'Hachem, il a lieu à Yom Kippour, il arrive avec les louchot, et Hachem dit, en plus, je vais résider parmi vous, donc on a complètement refait les relations entre Israël et HaKadosh Baruch Hu. Donc ça, c'est pour la Machloket, Rashi Ramban. La première chose, alors il faut que vous sachiez que tout ça, même Moshe n'arrivait pas à se représenter comment ça devait être fait, et Hachem lui a montré tout ça en feu. L'aide de feu, enfin, ou en signe de feu, dans le ciel. Donc, ça veut dire que même Moshe, avec la description en mots, ça marche pas. Même si c'est la destruction la meilleure qui soit, puisque c'est Hachem qui lui dit les mots. Il avait besoin d'images. Dans le ciel, quoi. Savoir comment ces choses matérielles. Alors, c'est possible que Moshe Rabbeinu, il était dans un monde de mots et de voix, et pas un monde justement d'images. Et donc, quand il fallait se représenter les choses, qui sont les images, quoi, qui sont la menorah, le Aaron, Choupan, etc. Les images, il avait besoin qu'Hachem l'aide. Donc Hachem l'a aidé. Mais la première chose qui a été faite, il faut aller au début du. Non, c'est pas le début, c'est au Passouk Yud, du chapitre 25. Vasu Aaron Atseshitim. Alors, c'est les psukim difficiles. Ils feront le Aaron. L'Aaron, c'est donc la boîte dans laquelle on va poser les loukhot. Elle sera en bois de Hatséchitim. Elle sera en bois d'acacia. Et les dimensions, c'est 2,5, 1,5, 1,5. L'unité, c'est les amot. Hein. Donc, il faut diviser c'est 50 centimètres. 2,5 fois 50, 1,5 fois 50, 1,5 fois 50. Pas bien grand. Et puis, ça doit être à l'intérieur comme à l'extérieur. Ça doit être recouvert d'or. Donc, Rachid dit, ça revient. On a fait trois boîtes. Une boîte en bois, deux boîtes en or. Et on a mis dans la boîte en or, on a mis la boîte en bois. Et dans la boîte en bois, on a mis la boîte en. Donc, c'était juste, il fallait juste décaler un tout petit peu pour. Ça marche. Bon, alors, il y a les détails. On va mettre des anneaux pour pouvoir mettre des barres dedans pour les transporter. Et ce qui est important, enfin, tout est important, mais regardez le verset 17. Ben, si t'as haporet zahav, tu feras un couvercle en or pur. Amataim vachetsi orgav, orka ve ama vachetsi rochba. Mais ici, vous devez faire une remarque. Vous avez le droit de parler pouvez ouvrir vos micros et faire une remarque sur ce verset. Pas très difficile de faire une remarque. Bon, il y a bien quelqu'un qui fera la bonne remarque, non? Imaginez, vous êtes l'ébéniste ou je sais pas quoi, le. Alors on vous donne les dimensions de la boîte, et on vous dit, on vous fera un couvercle, telle et telle dimension. Il y a quelque chose de trop.
Pourquoi de trop?
Allons, allons, allons.
Chaque fois, il y a
Vous
une
savez ce que
demi.
c'est un couvercle?
Hein?
Vous savez ce que c'est qu'un couvercle?
Ouais.
Alors dites-moi, qu'est-ce que vous pouvez dire d'un couvercle?
Ça déborde un peu.
Pardon?
Ça déborde un peu.
Pourquoi ça déborde un peu? Un couvercle, il n'est pas obligé de déborder.
Bon, ça tient mieux si. Oui.
Seulement, il ne déborde pas, celui-là.
Oui,
Pardon? Oui, par conséquent. Pourquoi la Torah nous donne les dimensions du couvercle? Pense bien. Dans le Bétamigdash, enfin, on ne va pas prendre un couvercle d'une autre casserole pour mettre dans celle-là qui va déborder. Couvercle ad hoc sur la boîte, il aura les mêmes dimensions que la boîte. Pourquoi la Torah, elle répète les dimensions? Non, mais c'est pas, dans ce cas-là, elle aurait dû me dire un couvercle qui recouvre. Si c'était plus grand, elle devrait nous dire si ça descend sur les côtés ou si ça remonte ou. Non, pas du tout. C'est, le couvercle, c'est exactement à la bonne, même dimension. D'ailleurs, ce sont les mêmes dimensions. Et par conséquent, il y a des dimensions du couvercle qui ne servent pas à me dire quelle grandeur doit avoir le couvercle, puisque ça, je le sais de la boîte, des dimensions de la boîte. Et par conséquent, vous vous trouvez dans l'obligation d'expliquer à quoi ça sert ou qu'est-ce que ça veut dire que de nous donner des dimensions spécifiques de ce couvercle. Si on donne les dimensions du couvercle, qu'est-ce que ça veut dire, ce couvercle? Le couvercle, normalement, il est secondaire par rapport à la marmite, par rapport à la boîte. Mais si on donne des dimensions qu'il était inutile de donner, c'est pour dire qu'il a une chachivout, il a une importance pour lui. Ce couvercle, il n'est pas seulement un couvercle. On va voir dans la suite qu'il va servir à des choses absolument fondamentales. C'est vrai que c'est un couvercle. C'est bien plus que ça. Par conséquent, dire les dimensions, c'est dire que cet objet-là, il a une existence propre, si vous voulez. Et donc, Ça s'explique, l'existence propre, ça se dit en termes de, il a des dimensions propres.
Oui, mais il est surtout en or pur, ce qui n'est pas le cas des parois de la boîte.
Pardon?
Le couvercle est en or pur, ce qui n'est pas le cas
Oui.
de la boîte.
Oui, par exemple, oui.
Ben donc, on aurait pu dire, par exemple, que c'est un couvercle qui est en bois recouvert d'or.
C'est ça. Ce n'est pas ça. C'est un couvercle en or pur.
Ben, ce n'est pas le cas de la
Complètement.
boîte. La boîte, elle n'est pas en or.
Alors, on va regarder dans la suite. Qu'est-ce qu'il est dit de ce couvercle-là? Il dit des drôles de choses. Tu vas faire dans le 18, hein, verset 18. Vasita shnaim kruvim zahav. Miksha ta'aseotam, Mishne ktsota kaporet. Tu feras deux kruvim, deux chérubins, en or, Miksha, d'une seule pièce. Tu les feras. À partir des deux extrémités du couvercle. Donc, dans la masse du couvercle. On va tirer l'or de l'or et on va former cet or en forme de krouvim. Et ces krouvim, alors, tu vas en faire un à partir de cette extrémité, l'autre à partir de l'autre extrémité. Deux extrémités. Et ces krouvim, verset Kaf 20, ces krouvim, ils vont étendre leurs ailes vers le haut, comme ça. Mais en même temps, sochechim bechanfeim à la kaporet. Sochechim, le mot sochechim, vous le connaissez. C'est vrai que on est seulement avant Pessah, mais ça fait référence à Soukhot. Sochrim, c'est la même chose que Souka, c'est-à-dire ça fait un toit. Donc les ailes, elles sont vers le haut, mais penchées comme ça. Et donc, qu'est-ce qu'elles font? Elles sont comme un toit par rapport au couvercle. Nehem Ishelachiv. Les visages des deux Krouvim sont face à face, mais ils sont tournés vers le bas. Donc c'est que tu vas placer, verset 21, tu vas placer le couvercle sur la boîte, Milmala évidemment, en bas. À la velle, à Aaron, titen et ta edout. Et tu mettras les tables. Asher eten elecha que je te donnerai, tu le mettras dans la boîte. Bon, la vérité, si on avait rédigé, on aurait peut-être dit d'abord qu'il faut mettre d'abord les tables dans la boîte avant de mettre le couvercle. Mettre le couvercle et puis mettre les tables après. C'est un peu compliqué. Bon. Mais surtout, c'est marqué que ici, ça, c'est une difficulté pour Rachid, oui. Pourquoi c'est une difficulté pour Rachid? Pardon? Il y avait, pour Rachid va dire que la construction du Mishkan, elle va se faire après Yom Kippour. Donc il a les deuxièmes lopotes. Mais justement, pourquoi c'est marqué Eten Elecha? Quand il lui parle, il te dit, je te donnerai, c'est un futur, les tables. Et après Rashi, il les a déjà reçus, les tables, puisqu'on est après Yom Kippour. Ramban, ça va. Parce que ça a été dit avant que Moshe, enfin, quand Moshe monte sur la montagne, avant la faute du veau d'or et avant, etc., et avant qu'il lui donne Bichlal, les lokot. Rashi va devoir expliquer qu'est-ce que c'est que cette histoire, ce futur-là. Mais c'est pas, on va pas travailler, c'est pas, on va pas parler de ça. On a juste le temps de dire, au 22. Venoadti lecha, sham. Et j'aurai rendez-vous avec toi là-bas. Vedibarti itcha. Et je parlerai avec toi, mais al hakaporet. De dessus le kaporet, mi ben shnei akruvim. Donc, dans cet espace au-dessus du kaporet. Le kaporet, ici, c'est mon sefer, là. Et les kruvim sont comme ça. Donc, il y a tout cet espace-là, qui est al hakaporet, et mi ben Akruvim. Hachem dit, la voix que tu entendras, elle semblera ou elle viendra de cet espace-là. Donc ce Kaporet, c'est le lieu du rendez-vous d'Hachem avec Moshe Rabbeinu. Vous vous rendez compte, l'importance de ce Kaporet. Moshe Rabbeinu, en fait, comme les autres, Moshe Rabbeinu ne va pas entrer dans le Kodesh HaKodashim. Mais la voix, elle viendra du Kodesh HaKodashim, elle arrivera chez lui. Moshe, il est de l'autre côté du rideau. Il y a un rideau entre le Kodesh HaKodashim et le reste. Moshe, il est de l'autre côté du rideau. Il n'a pas le droit d'entrer de. Alors, ce qui est intéressant, juste au passage, on va mettre les louchotes dans la boîte. Personne ne va jamais voir ces louchotes. Aaron, quand il entre à Kippour, il n'ouvre pas la boîte. Il se prosterne et il prie. Donc, les louchotes, elles disparaissent de la circulation. Elles sont dans la boîte, mais personne ne les voit jamais. Donc, si ça se trouve, à part Moshe Rabbeinu, personne ne les a jamais vus. C'est une drôle d'affaire. Voilà, on va s'arrêter là.